toutes et à tous une matinale au sujet délicat, puisque le thème est « Comprendre et lutter contre les violences en protestantisme », titre d'un ouvrage collectif dirigé par la Fédération protestante de France aux éditions Biblio. Au micro, Yolande Gounel et mon invité Frédéric Rognon, qui a rédigé deux articles dans ce livre. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Et merci d'être là et de retrouver nos auditeurs qui vous connaissent déjà. Alors, je précise que contrairement aux habitudes, cette matinale a été enregistrée en visio et évidemment la qualité ne sera pas aussi bonne que si on était au studio. Alors, je demande aux auditeurs de nous en excuser. Alors, Frédéric, premier constat que vous faites dans votre livre, enfin dans le livre, vous dites d'abord qu'il ne faut pas limiter la violence aux actes violents. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ?
Eh bien, la violence est un concept extrêmement flou et extrêmement large. Et donc, il ne faudrait pas limiter la violence à ce que l'on peut en voir, à ce qui est photogénique, si j'ose dire, c'est-à-dire à la violence physique que l'on peut voir dans des films ou aux actualités. Il y a des formes beaucoup plus subtiles de la violence, et je dirais que dans le protestantisme, en tout cas dans nos églises, il y a peu de violence physique, ça arrive, mais c'est quand même assez rare. En revanche, la violence psychologique, la violence spirituelle, la violence symbolique peuvent être très très fortes, et on voit moins ces formes-là, donc c'est important de les déceler.
Alors, on va en parler, puisque effectivement, la violence en protestantisme est un peu différente des cas qu'on connaît et dont on parle habituellement. Alors, d'abord, violence et église, alors quelques chiffres. La violence concerne 17% des femmes juives ou musulmanes, 9,5% des femmes catholiques ou protestantes et 7,8% de celles qui n'ont aucune religion. Alors, finalement, plus le niveau de pratique religieuse est élevé et plus le taux de violence est élevé. C'est un second constat. Alors, est-ce qu'on s'attendait à ces chiffres ou est-ce que c'est une surprise ?
Alors, ça dépend pour qui. Moi, je ne suis pas très surpris parce que je crois qu'on a souvent été victime d'une image, disons, harmonieuse, irénique des églises et des religions en général. Mais il y a des personnes pour qui ce n'est pas le cas. Mais disons que dans les églises, du point de vue des membres d'église, on a plutôt une vision favorable en interne et on ne s'attendait peut-être pas à voir ces chiffres-là. Pour ma part, je crois que ces chiffres révèlent une réalité, c'est que un des premiers acquis de ma recherche, c'est que la violence est d'autant plus virulente et d'autant plus effective qu'on ne veut pas la voir. Et donc, lorsqu'on croit que l'on est dans des institutions qui nous protègent, des institutions qui prônent l'amour et la paix, eh bien, on a tendance à refouler des phénomènes. Et du coup, par retour du refoulé, en quelque sorte, hein, comme disent les psychanalystes, il peut y avoir une violence extrêmement vive, du simple fait qu'on n'a pas voulu la regarder avec lucidité.
Alors, on va venir à ça. Mais d'abord, les raisons de cette violence en milieu chrétien. Vous parlez de l'idéalisation du foyer chrétien.
Oui, alors les raisons, elles sont certainement multiples. Hein. Il faudrait se garder d'avoir une analyse monofactorielle. Il y a toujours de nombreux facteurs. Et puis, il y a des facteurs qui sont communs aux églises, aux institutions religieuses et à toutes les autres institutions et à toutes les autres sphères de la société, la famille, les institutions, disons, associatives, le monde du travail, bien entendu. Mais je crois qu'il y a des facteurs spécifiques au monde religieux, aux églises et en particulier aux églises protestantes. C'est ce à quoi je me suis attaché, c'est essayer de discerner quels sont les, les facteurs qui font des églises protestantes, je dirais, des lieux particulièrement conflictogènes et favorables à la violence. Et parmi ces facteurs, il y en a un en particulier qui me semble vraiment massif, c'est que précisément dans la tradition chrétienne, dans les églises protestantes, on met en avant, et à juste titre, l'amour du prochain, une éthique donc de la soumission mutuelle et de l'amour, mais bien souvent on ne définit pas clairement ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la soumission mutuelle, et du coup on laisse passer des choses au nom de l'amour, au nom de cet idéal exacerbé, on laisse passer des choses qui petit à petit se cristallisent et peuvent déboucher sur la violence. Et ça c'est propre, disons, à la tradition biblique, c'est-à-dire qu'on est, pétri de cette injonction à aimer son prochain, à s'aimer les uns les autres, mais il faudrait travailler en profondeur ce qu'est l'amour, le véritable amour, l'amour évangélique, pour éviter d'être complaisant avec des formes qui se cachent, des formes de violence qui se cachent derrière l'amour, pour être d'autant plus virulentes.
Oui, vous parlez, notamment vous donnez comme raison ponctuelle aussi l'idéalisation du mariage, l'interdiction, c'est moi qui le dis, l'interdiction morale, entre guillemets, du divorce, la culture du secret et l'injonction du pardon à bon marché. Ça, c'est effectivement plus dans les églises. Est-ce que à l'heure actuelle on vit toujours ça, c'est-à-dire l'idéalisation du mariage et l'interdiction morale du divorce? Est-ce que de nos jours ça existe encore?
Alors là, ça dépend des milieux, bien entendu. Il faudra faire des différences, et le livre le fait très bien, les différences entre les types d'églises, les types de sensibilité spirituelle, les courants théologiques aussi. Donc il y a des églises dans lesquelles, il y a des milieux ecclésiaux dans lesquels bien cette injonction, ces interdits sont très forts, et d'autres où ils se sont affaiblis ces dernières décennies. Donc ça ne joue pas exactement au même niveau selon les églises et selon les milieux. Mais quand même, je dirais qu'il reste cette injonction au pardon, sans aller jusqu'à l'interdit du divorce qui est quand même qui s'est quand même bien assoupli, mais l'injonction au pardon à n'importe quel prix, pardonner de façon inconditionnelle, c'est certainement un élément de la culture protestante qui a été intégré génération après génération et qui mérite d'être repris, retravaillé, à la lumière des textes évangéliques, des textes bibliques, pour voir qu'est-ce que c'est que le pardon, et est-ce que le pardon n'est pas parfois une caution ou une complaisance vis-à-vis de certaines injustices ou de certains abus. Et c'est ça un petit peu que, à mon avis, il faut remettre sur le chantier.
Alors, votre second, là, c'est les églises, enfin, c'est des problèmes qu'on retrouve partout, plus spécifiquement dans les églises, mais dans votre second article, qui est intitulé « La spécificité des violences », là, vous parlez donc de violences psychologiques, comme vous venez de le répéter, spirituelles ou symboliques. Alors, elle se situe à quel niveau ces violences? Entre qui et qui? Elle se situe dans les couples? Elle se situe dans les instances? Où elle se situe principalement?
Alors, je ne voudrais pas dresser un tableau catastrophiste en disant qu'elle se situe partout et qu'il n'y a que de la violence, bien entendu. On est un peu victime d'un effet de loupe actuellement. Avec l'actualité, on regarde des choses qu'on ne regardait pas jusqu'ici, et du coup, on a peut-être tendance à les exagérer. Mais je dirais, sans être à une hauteur excessive, la violence peut se nicher, se situer à tous les niveaux, c'est-à-dire dans les couples, bien entendu, dans les familles. Et là, les familles chrétiennes ne sont pas plus prémunies que d'autres. Et puis, dans les églises, alors là, c'est à différents niveaux. Ça peut être au niveau des relations un pasteur et ses paroissiens, entre deux collègues, deux pasteurs ou trois. Ça peut être au sein d'un conseil presbytéral, entre les membres du conseil, le président et le pasteur, ou le président et d'autres membres, au sein de groupes de jeunes, au sein de groupes de cathés, au sein de différents groupes d'une église locale. Et puis au niveau institutionnel, ça peut être au niveau régional, au niveau national, il peut y avoir des phénomènes de violence psychologique ou spirituelle ou symbolique, qui, encore une fois, ne sont pas un phénomène massif où il n'y aurait que de la violence, mais néanmoins, je pense qu'il n'y a aucune instance qui n'y échappe.
Alors, effectivement, vous parlez de l'actualité et vous avez raison, c'est parce que les projecteurs sont là-dessus et c'est très bien. Ce livre est très bien parce que on parle des violences sexuelles et on cite quelques cas qui défrayent la chronique, mais il faudrait pas que ces cas soient les arbres qui cachent la forêt. Donc là, vous parlez d'une situation qui est plus diffuse. Bon, il faut quand même répéter que la plupart du temps, c'est paisible dans la vie des communautés. Mais c'est un travail sociologique, effectivement, qui essaye de prendre les devants. Parce que vous dites quand même, donc, et vous venez de le répéter, que les églises protestantes connaissent davantage de conflits violents. Que faire, enfin, pourquoi encore cette situation? Vous avez commencé à expliquer, mais est-ce que l'institution n'est pas à la hauteur?
Alors, je dirais que c'est effectivement l'un des fruits de mes recherches, c'est que les églises sont des lieux particulièrement conflictogènes. Et c'est le démarrage de ce livre, hein. C'est Valérie Duval-Pujol qui, avec son équipe, qui ont eu l'idée de ce livre, suite à ce qu'on connaît bien de l'Église catholique. Et donc, on s'est demandé, est-ce que dans le protestantisme, il n'y a pas des phénomènes analogues, ou bien est-ce que c'est vraiment tous les scandales qui ont eu lieu dans l'Église catholique sont vraiment liés à une structure cléricale proprement catholique. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que, sous des formes un peu différentes, il y a dans les églises protestantes, un terrain favorable aux conflits, et notamment aux conflits violents, aux conflits de personnes, et parfois à la manipulation ou aux abus. Voilà. Donc, ça, c'est à mon avis, d'après mes recherches, c'est lié à plusieurs facteurs et notamment au fait que dans les églises protestantes, eh bien, on a tendance à refouler les problèmes dès qu'ils se présentent au nom d'un idéal, d'une église qui serait sinon parfaite, du moins qui serait en voie de perfection, qui serait quasiment une antichambre du royaume. Dans l'Église, il ne devrait pas y avoir de conflit. Dans l'Église, il ne devrait pas y avoir de violence. Et paradoxalement, le fait de croire, d'entretenir cette croyance, d'entretenir la croyance que l'Église serait fondamentalement différente d'un autre groupe, d'un groupe profane, eh bien, ça a tendance à accentuer et à renforcer, à nourrir les tendances à la violence. Je dirais qu'une église locale, en comparaison avec un groupe profane de la même échelle, de la même taille, attire davantage de violence, entre autres pour cette raison-là. Parce qu'on a tendance à confondre l'église et le royaume, comme si dans l'église il ne devait pas y avoir de conflits et de violences, alors que la meilleure façon de s'emparer de la violence, ben c'est de la regarder et donc de reconnaître que l'Église, que nos églises, que les églises locales, ne sont pas si différentes que ça des autres groupes. En faisant comme si elles étaient si différentes que ça des groupes profanes, on a paradoxalement, on renforce en fait la dynamique de la violence. C'est ça qui est vraiment paradoxal et un peu tragique, hein, je dois l'avouer, parce que à force de faire ce constat, ben, je me dis c'est quand même vraiment dommage, d'autant que j'essaie de montrer aussi dans ce livre que l'Église a aussi des ressources spécifiques et extrêmement riches pour s'emparer des questions de violence. Donc elle a une spécificité dans une spécificité de vecteur de violence, mais aussi une spécificité de ressources pour la contrer et pour lutter contre elle. Et c'est alors, cela que je voudrais développer aussi, hein, qu'il y a aussi cette richesse-là qu'il faut absolument cultiver.
Oui, oui, on va y venir. Donc, si je comprends bien, c'est parce que on a sacralisé finalement. Enfin, il y a une forme de sacralisation du groupe communautaire qui interdit ou qui limite l'étude sociologique. C'est-à-dire qu'on croit que l'Église est le royaume de Dieu, comme vous dites. Et alors, on a peut-être oublié la méfiance nécessaire vis-à-vis de l'institution.
Tout à fait. C'est à partir du moment où on considère qu'il y a une différence qualitative entre l'Église et un groupe profane, eh bien, on s'interdit en quelque sorte le recours à des outils que nous donnent les sciences humaines, que nous donne la psychologie, la psychosociologie, qui ne conviendraient pas à un groupe comme l'Église, alors qu'en réalité, l'Église est évidemment différente d'un autre groupe, elle a une vocation particulière, elle a un fonctionnement spécifique, mais dans les fonctionnements fondamentaux, les fonctionnements anthropologiques, elle est du même ordre. Et donc, on est tout à fait bien inspiré, et ça se fait bien entendu, d'avoir recours aussi à des analyses de type sociologique ou sociopsychologique pour l'Église comme pour les autres groupes.
Alors on va voir maintenant les solutions, parce que vous avez raison, on a parlé des problèmes, enfin on aurait pu s'attarder, mais enfin c'est le moment est venu de parler des solutions, auparavant donc nous allons faire une pause musicale et on se retrouve ensuite. Alors, au niveau des solutions, bon, vous parlez, vous dites qu'il y a des solutions. Moi, ce que je vois, c'est que on a écrit des livres. Vous avez déjà écrit vous-même un livre en 2006 qui s'appelle « Gérer les conflits dans l'Église » chez Olivetan. Il y a un livre qui s'appelle « Quand la toute-puissance humaine » s'invite dans l'Église, donc de Edith Tartare-Godet, qui a été publié récemment. Mais j'ai l'impression que ça ne convainc que ceux qui les lisent et que ceux qui les lisent sont déjà des gens convaincus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions que des livres ?
Alors oui, il y a d'autres solutions que des livres, mais je ne voudrais pas sous-estimer quand même l'intérêt d'écrire et de publier des livres. Parce que c'est malgré tout, depuis 20 ans, bientôt 20 ans, 19 ans, que ce livre auquel vous faisiez allusion est paru, eh bien, je vois quand même que des choses bougent. Je suis très souvent invité dans des paroisses, dans des consistoires, pour échanger avec les paroissiens, avec les membres de l'Église. Et je vois quand même qu'il y a une prise de conscience. Grâce au livre, hein, donc le livre est important. Après, il y a une autre piste à explorer, mais qui se fait déjà, qui commence à se faire, c'est la formation par des stages, par des sessions. Donc la formation dans les facultés de théologie, ça commence à se faire pour les futurs pasteurs. La formation des conseillers presbytéraux et des présidents de conseillers presbytéraux, il y a des formations dédiées, hein, spécifiques pour ces personnes. Et donc, je crois que c'est aussi un des facteurs qui facilite la violence dans les églises, c'est qu'on a trop souvent négligé la formation. Pendant très très longtemps, c'est seulement récemment qu'on a intégré ces formations dans les facultés de théologie, et a fortiori pour le peuple de l'Église, pour les conseillers, pour les présidents de conseil et pour les membres de l'Église. Donc ça, c'est un des facteurs aggravants qui est en train d'être conjuré par toute une série de formations qui sont proposées. Et donc, il s'agit de briser en quelque sorte un tabou, de se dire, abordons les réalités de l'Église avec des outils qui ne sont pas spécifiquement théologiques et spirituels, qui sont les outils qui font leur preuve dans d'autres groupes, qui sont les outils des sciences humaines. Avec néanmoins une approche aussi théologique, biblique, bien entendu, et spirituelle, qui vient s'ajouter à ces outils-là. Donc ça, c'est quand même une piste qui est en train d'être bien labourée.
Après, vous dites la théologie, enfin vous parlez de la formation théologique, oui, parce que il y a peut-être un problème théologique. Vous avez parlé du mauvais usage du pardon, donc on accorde le pardon aux gens et donc on les laisse continuer à faire des choses qui sont pas forcément très très bien. Et puis il y a l'histoire de la fraternité. Or quand on lit la Bible, la fraternité, c'est quand même un concept qui est un peu parfois contradictoire. Je ne dirais pas Caïn et Abel, mais enfin, il y a d'autres éléments comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une mauvaise formation théologique ou il y a une mauvaise formation théologique ?
Alors, je prendrais le problème de façon plus positive en disant que dans la tradition chrétienne et en particulier dans la tradition protestante, nous avons à notre disposition des ressources scripturaires, donc l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui nous parlent de conflits et qui nous parlent de violence du début à la fin, et que c'est quand même une spécificité chrétienne. Les groupes profanes n'ont pas cette richesse à leur portée, et donc nous sommes invités à lire ces textes, à relire ces textes avec la question, l'interrogation sur ce qu'ils nous apprennent des conflits. Et ils nous apprennent des choses très, très passionnantes et très riches. Je vous donne juste un exemple. On parlait tout à l'heure de la mauvaise interprétation de l'amour parce qu'on va surinterpréter cette injonction à « aimez-vous les uns les autres, c'est ainsi que tous verront que vous êtes mes disciples, soumettez-vous les uns les autres ». Mais on oublie qu'il y a quand même dans les mêmes textes une incitation à lier l'amour à la vérité et à la justice. Dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, verset 7, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et donc, si on fait de l'amour quelque chose de totalement absolu, sans le lier à la justice et à la vérité, ben on passe à côté du message évangélique. Donc, dans les textes évangéliques, dans les textes des épîtres de Paul, nous avons des ressources qu'il s'agit de reprendre, de retravailler, pour voir à quel point l'amour ne peut pas être déconnecté de la vérité et de la justice, par exemple. Voilà. Et puis, pour donner un autre exemple, ce sont tous les textes, notamment dans l'Ancien Testament, autour de Joseph, du personnage de Joseph dans la Genèse, qui tournent autour du phénomène du bouc émissaire. Donc nous avons dans la Bible la mise en scène de phénomènes de bouc émissaire. René Girard en particulier a travaillé beaucoup sur les textes bibliques pour construire sa théorie du bouc émissaire. Et donc nous avons à notre portée, à notre disposition, des ressources scripturaires et spirituelles très riches pour aborder les phénomènes de bouc émissaire qui se jouent dans nos églises aujourd'hui de manière assez incisive.
Vous parlez aussi de l'opposition entre pouvoir et autorité. Et vous dites que le pouvoir n'a pas sa place dans l'Église où ne peut se déployer que l'autorité. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ça pour qu'on comprenne bien la différence ?
Alors, je ne dis pas que le pouvoir ne doit pas se déployer dans l'Église. Je dis que c'est une croyance, c'est une représentation de beaucoup de membres d'Église qui consiste à dire que dans l'Église, il n'y a de place que pour l'autorité et pas pour le pouvoir. Alors, la différence, c'est que le pouvoir, il se manifeste et il s'applique même en l'absence de l'accord de ceux sur lesquels il s'applique, alors que l'autorité ne s'applique qu'en accord avec ceux qui sont concernés. Voilà, quelqu'un qui a de l'autorité, eh bien, il a l'accord de ceux vis-à-vis desquels il va agir, alors que celui qui a du pouvoir, eh bien, il va imposer son pouvoir. Eh bien, si on reprend les textes bibliques, parce qu'en grec, il y a deux termes pour exprimer le pouvoir et l'autorité comme en français, mais dans les évangiles, si on les lit de près, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autorité sans pouvoir. C'est-à-dire que, bien sûr, Jésus a une autorité très forte, mais il a aussi un pouvoir. Et les deux termes sont très souvent associés. Ce qui me fait dire que si on reprend ces questions théologiques et si on essaie de voir ce que ça signifie pour nos vies d'Église, eh bien, ça n'a aucun sens de privilégier absolument l'autorité sans lui donner la force du pouvoir, c'est-à-dire de prendre une décision et de ne pas se donner les moyens de l'appliquer, par exemple. Hein, c'est ce qui arrive de temps en temps dans les Églises. On prend une décision, mais il n'y a pas de sanction pour ceux qui la transgressent, il n'y a pas d'application d'un certain pouvoir. On attend que les gens soient d'accord pour appliquer donc une autorité et pas un pouvoir. Eh bien, il me semble que ce n'est pas ce que nous transmet l'Évangile. L'Évangile associe pouvoir et autorité de manière, en les articulant étroitement, et que donc l'Église ne doit pas avoir peur du pouvoir. Elle doit bien sûr s'inspirer de l'autorité du Christ, mais dans la discipline n'a de sens que si elle conduit à une application des règles et parfois à des sanctions.
Oui, mais justement, vous mettez donc très justement le doigt sur un des problèmes de l'Église, c'est-à-dire que les décisions n'entraînent pas de sanctions si on ne les respecte pas. Et alors, vous dites dans votre article que l'Église attire des personnalités au profil pathologique. Et vous parlez carrément de pervers narcissiques. Effectivement, il y a des gens dont la bonne volonté, le dévouement est complètement invasif. Et il y a, je ne suis pas psychanalyste, mais il y a des formes de perversion. Alors, comment régler ce problème quand on n'a pas la possibilité de donner des sanctions, parce que avec ces personnes la médiation ne marche pas vraiment.
Tout à fait, et c'est l'un des gros problèmes de la violence dans les églises protestantes, me semble-t-il. Là, je renvoie au livre que vous avez déjà mentionné tout à l'heure d'Edith Tartare-Godet, hein, « Quand la toute-puissance humaine s'invite dans l'Église », hein, aux éditions Olivetan, où elle décrit des situations très concrètes dans l'Église, d'emprise, de manipulation par des personnes au profil pathologique qui relèvent de la psychiatrie. Hein, et donc, avec un profil de ce type, la médiation est totalement impuissante. Alors, ce que je constate, c'est que l'Église favorise ce type de profil, c'est-à-dire que nos églises locales sont très heureuses quand quelqu'un se présente en disant j'ai du temps, je vous propose mes services, c'est-à-dire nous appliquons un accueil inconditionnel, ce qui est tout à l'honneur évidemment de l'Église, hein, d'accueillir sans condition, mais parfois sans discernement. Et donc, on ouvre un boulevard, on dresse le tapis rouge pour des personnalités qui vont trouver là de quoi, eh bien, développer leur pathologie et du coup, parfois conduire à une certaine emprise sur des personnes. Alors, ça peut être un pasteur, ça peut être un président de conseil presbytéral, ça peut être un membre d'église qui n'est pas au conseil. Et qui peut ensuite mettre à mal l'harmonie relationnelle au sein de l'Église en cristallisant des oppositions, en mettant des personnes qui lui sont dévouées autour d'elle et en excluant les autres, en les humiliant, etc. Et ça, c'est un phénomène qu'on trouve un peu partout, pas de manière massive, mais un peu partout dans la société. Mais je dirais que les Églises, et notamment les Églises protestantes, parce qu'elles sont très heureuses d'accueillir le tout venant qui se propose pour rendre service, eh bien, présentent un terrain particulièrement favorable et donc vulnérable vis-à-vis de ces profils.
Alors, dernière question, il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il faudrait réécrire la discipline? Est-ce qu'il faudrait intégrer des articles limitant justement ces personnes qui disent qu'elles travaillent 8 heures par jour, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, et que donc on ne doit pas les contester parce que sans elles, la vie de l'église locale ne pourrait pas fonctionner? Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement en 2 ou 3 minutes, je reconnais que c'est peut-être pas très facile.
Ouais, je dirais qu'il y a une autre ressource particulièrement riche dans les églises, et notamment dans les églises protestantes, c'est ce fameux principe en latin qui nous vient du XVIIe siècle, hein, Ecclesia reformata semper reformanda, l'église réformée doit toujours se réformer, et donc ce principe de réformation permanente doit nous donner les moyens d'aborder des situations comme celle-ci. En effet, au lieu de rester sur des fonctionnements traditionnels et un peu sclérosés hein, dans nos églises, nous pourrions reprendre les textes, nous pourrions reprendre nos fonctionnements. Et pour ce qui concerne en particulier les personnes à profil pathologique, eh bien, il faudrait réhabiliter le pouvoir, je dirais réhabiliter le pouvoir pour pouvoir retirer, je pense que la solution la plus concrète et la plus efficace dans ces situations-là, c'est de retirer à ces personnes-là des responsabilités dans l'Église. Ça ne veut pas dire les exclure, elles peuvent rester dans l'Église, mais il faut se donner les moyens de désamorcer leur pouvoir de nuisance en leur retirant des responsabilités. Je pense que ça c'est une question très concrète qui me semble absolument à privilégier. Ça peut se faire parce que dans notre Église, on remet chaque année, par synode après synode, on remet sur le métier nos fonctionnements, nos habitudes, parce que nous sommes non pas des Églises issues de la Réforme, mais des Églises en réformation. C'est un processus de réformation permanente. Et ça, c'est quand même une richesse que toutes les Églises et que tous les groupes n'ont pas. Donc moi, je voudrais vraiment terminer sur plutôt sur cet optimisme, hein, nous avons à notre disposition cette ressource extrêmement riche qui consiste à se remettre en question et prendre des décisions courageuses, audacieuses pour avancer.
Eh bien, merci Frédéric pour cet optimisme qui clôt ce sujet délicat. Et merci encore donc de revenir à la radio et merci à nos auditeurs. Au revoir.
Au revoir.